de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Suite et fin du récit que faisait Jean-Pierre Vernant de l'histoire d'Ulysse en 2002 devant un public d'enfants. C'était lors de la séance inaugurale des petites conférences Lumière pour enfants au Centre dramatique national de Montreuil. Dans ces passionnantes petites conférences, destinées au jeune public, sont passées des personnalités aussi différentes que Yves Coppens, Arlette Farge, Jean-Luc Nancy, Florence Aubenas, Michel Deguy, Rodolphe Burger, Hubert Reeves, Georges Didier Huberman, Elisabeth de Fontenay et beaucoup d'autres. Au début de la deuxième partie du récit de Jean-Pierre Vernant, Ulysse, qui vient de jouer un bon tour à Polyphème pour quitter l'île des Cyclopes, fait une halte chez Éole avant de tomber dans les bras et le lit de Circé. Il n'est pas encore prêt de rentrer à Ithaque. Il traîne en route. C'est même à se demander s'il a vraiment envie de rentrer à la maison pour retrouver Pénélope.
La Grèce, les aventures d'Ulysse, racontées par Jean-Pierre Vernant. Deuxième partie. Après avoir pris la ville de Troie, Ulysse et ses compagnons reprennent la route pour rejoindre leur patrie, l'île d'Ithaque. Mais les dieux se déchaînent contre eux et le voyage durera encore 10 ans. Après bien des péripéties, Ulysse a réussi à échapper au cyclope Polyphème et reprend ses bateaux, poursuivi par la vindicte de Poséidon, le père de Polyphème.
À peine a-t-il quitté ça, qu'il arrive dans une île qui est une île bizarre, dans ce monde de nulle part où il est flanqué. Où il fait l'expérience de quoi? De ce qui peut arriver de pire aux hommes, des frontières de l'humain. Il fait l'expérience de ce qui arrive à un homme qui, comme lui, est en train de ne plus devenir personne. Il va devenir personne, il ne sera plus rien, il ne sera plus Ulysse. Personne ne saura où il a été, il aura disparu. Ses parents, son fils, sa femme, ses amis diront « il n'y a plus d'Ulysse, on n'en pourra plus citer son nom ». Il est happé par la nuit. Et il arrive là dans cette île, qui est une drôle d'île, une île flottante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle n'est pas ancrée dans le sol. Elle bouge comme ça un peu. Et c'est une île où il y a, qui est entourée par une énorme muraille de bronze très haute. Et aussi, il y a des rochers. Et puis, au milieu de l'île, il y a un petit endroit plat où se trouve le roi de l'île, qui s'appelle Éole, et il vit là depuis toujours, sans aucun commerce avec personne, il ne voit aucun être humain, aucun dieu non plus. Il a 6 garçons et 6 filles, et comme il voit personne, les 6 garçons épousent les 6 filles, et ils se reproduisent comme ça. Ils vivent dans cette île flottante, entourée par cette muraille, isolée du monde entier. Alors il s'emmerde sérieusement, il voudrait bien savoir ce qui se passe. Quand Ulysse arrive là, il le reçoit très bien. Pourquoi? Pendant 1 mois, Ulysse et ses marins vont rester chez cet Éole. Parce que Éole dit, raconte-moi ce qui se passe dans le monde. C'est comme la gazette, c'est comme les journaux, la télévision de l'époque. Et Ulysse raconte tout. Tout ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, à Troie, ailleurs, Achille, Hector, Priam, c'est la gazette. Et Éole et ses enfants et petits-enfants écoutent ça bouche bée, sont très contents et nourrissent très bien. Et puis, pour montrer qu'ils sont bienfaiteurs, qu'ils le reçoivent bien, ils lui disent « on va te ramener chez toi ». Pourquoi? Parce que sur la mer, il n'y a pas de route. Les routes, les hommes les construisent. Et quelquefois, quand les hommes ne construisent pas les routes, ce sont des pistes à force de marcher, à travers les champs ou à travers la brousse, ça crée un chemin. Mais sur la mer, il n'y a pas de chemin. Les bateaux passent, il y a un léger sillage qui s'estompe, et après, rien, c'est toujours la même surface. Les chemins de la mer, ce sont les vents, pour les Grecs. Les vents qui, suivant les cas, soufflent du nord vers le sud, ou du sud vers le nord, ou de l'est vers l'ouest, et inversement. Les directions de la mer, ce sont les vents. Et Éole est comme le chef de garde des vents. C'est là, il tient tous les vents, c'est lui qui les lance comme une garde triage qui déciderait que tel train va partir à tel endroit ou tel autre à tel autre. Dans cette espèce d'île flottante, il dirige la navigation par les vents. Et alors il dit à Ulysse, voilà, écoute, c'est tout simple, je vais te donner une outre magique. Dans cette outre, je vais mettre les semences, les points de départ, de tous les vents qui existent dans le monde. Et puis je vais fermer ça avec un fil d'argent. Tu ne voudras pas l'ouvrir. Tu vas prendre tes bateaux, tes lotonniers, et je vais, moi, laisser seul un zéphyr qui va te ramener droit sur Ithaque. Rien d'autre à faire que de mettre la voile et d'attendre. Un ange. Alors voilà, on fait ça. Mais il a dit ça à Ulysse et les hommes de l'équipage d'Ulysse. Ulysse, qu'est-ce que c'est que cette outre qu'il a offert? Il doit y avoir là-dedans de l'or, de l'argent, des choses très précieuses. Et quand le bateau file vers Ithaque, et que déjà, Ulysse au loin voit les montagnes comme une sorte de bouclier posé sur la mer, il est chez lui, il s'endort. Lui aussi, ses yeux se ferment. Lui aussi, la nuit du sommeil l'enveloppe. Et alors les marins disent, on va juste ouvrir pour voir ce qu'il y a là-dedans. Alors ils défont le fil, ils ouvrent l'outre, et alors naturellement, les vents, pouf, sortent là-dedans, et le bateau retourne chez Éole, qui cette fois leur dit, ah non, ça suffit d'une fois, et les fout dehors. Et alors, beaucoup d'autres histoires vont arriver à ce pauvre Ulysse, dont je vais vous faire grâce, parce que je ne veux pas vous tuer. Et alors, une au moins, sortant de là, ils arrivent dans une île qui est l'île des Lestrigons. C'est l'Estrigeon, il y a eu un très beau port, ça a l'air civilisé. Alors tous les marins d'Ulysse, les 12 bateaux, se mettent là, les uns à côté des autres, comme vous voyez dans les rades quand vous allez à la mer. Tous les voiliers, les grands voiliers, longs, un peu en arc-en-ciel, sont le long. Mais Ulysse, lui, se méfie et il dit à moi, non, mon bateau, je ne le mets pas là. Et il va planquer son bateau à la pointe d'un cap. Et il envoie des gens, 3 encore, pour voir un peu qui c'est l'Estrigeon. Il voit qu'il y a des maisons. Il se dit, c'est peut-être quand même des humains. Ces 3 personnes rencontrent une jeune fille à la fontaine qui est en train de remplir son seau, qui leur dit, ah ben vous montez tout à fait là-haut, vous allez voir une place, et là, vous verrez le roi. Ils montent, ils arrivent sur la place, et il voit une jeune fille, comme une tour, 6 fois grande comme eux. Belle fille, mais enfin, trop c'est trop, comme on dit. Alors, il la regarde un peu d'en bas, et elle dit, ah, mais ils sont tous comme toi. Non, moi je suis plutôt un peu, pas naine, mais un peu petite. Mais enfin, et allez donc, mon père, c'est le roi du pays. Allez-y, il vous attend, il vous a vu arriver. Il sera très content de vous voir. Et en effet, l'autre est très content, parce que comme le cyclope, à peine ils sont arrivés, il en attrape 2, et hop, il le bouffe, cannibale aussi. Ce monde de la nuit, ce monde de l'oubli, ce monde de nulle part, ce monde de cauchemar, où est maintenant Ulysse, et où quelquefois chacun de nous tombe quand il fait un cauchemar, eh ben c'est les cannibales. Alors, c'est une frousse épouvantable, tous les Grecs descendent à toute barre pour se mettre dans leur bateau, mais là, quand ils sont dans leur bateau, les Lestrigeons prennent des pierres, jettent sur les bateaux qui sont brisés, les Grecs tombent à l'eau, et alors, tous les Lestrigeons qui sont sortis, vous l'avez pas vu parce qu'on ne fait plus ça tellement comme ça, les tombent. comme on pêche les thons, comme on pêchait les thons autrefois. On les rassemblait, et quand ils étaient là, avec des pics, on les prenait, ça saignait, on les sortait. Ils font pareil avec les Grecs. Ils pêchent les Grecs comme des thons pour les mettre de côté, les saler, et avoir de quoi manger de l'homme un peu mieux. Tous, sauf naturellement Ulysse, qui lui s'est méfié, et par conséquent, les pierres n'ont pas coulé son bateau, et il repart. Mais il n'y a plus une flotte de 12 navires, il n'y a plus que les compagnons d'Ulysse. Ils partent, ils ont beaucoup d'aventures, très difficiles encore. Ils passent entre Charybde et Scylla, mais finalement, ils arrivent dans un endroit d'un autre genre. Ça ne va plus être des cannibales, ça ne va plus être des monstres. Ils trouvent une petite île où il n'y a pas encore d'agriculture, où il y a des bêtes, et ils envoient, dans cette petite île jolie, ils envoient une avant-garde, 12 marins, pour essayer d'explorer le coin. Ces 12 marins arrivent après avoir c'est uniquement des bois, du roc, de la savane, tout à fait inculte. Et puis ils voient une maison où il y a un jardin. Ils se disent, ah, et une fumée qui monte. Ah, ils se disent, là, peut-être on a un endroit pour être pas mal. Ils s'approchent, et en effet, ils entendent une femme qui chante d'une voix très belle, et ils l'aperçoivent par une ouverture qui est en train de tisser. Elle file et elle tisse. Elle est très belle, jeune femme. Ils sont très contents, mais ils s'étonnent aussi parce qu'ils voient arriver vers eux, remuant la queue, des lions, des ours, des sangliers, toutes sortes de bêtes sauvages qui, au lieu de les attaquer, se frottent contre leurs jambes, leur lèchent les mains et leur donnent les plus grands signes d'affection. C'est bizarre. Peut-être que dans ce monde, à l'envers, les bêtes sauvages sont gentilles. On va voir. Et ils entrent. La personne qui est là, qui s'appelle Circé, qui est aussi un être immortel, une magicienne, la fille du soleil. Dès qu'elle les voit entrer, elle dit « Ah, mais entrez, faites seulement, asseyez-vous. Vous voulez pas boire un petit quelque chose ?»« Si, volontiers, on ne peut pas de refus. » Alors elle leur prépare un bouillon avec du lait, du miel, de la verdure. Et dans cette nourriture, elle verse un filtre, une potion magique. À peine ont-ils bu ça, ils sont tous transformés en cochons. Alors, ils ne parlent plus, bien entendu, ils ont un groin, ils ont des soies, ils ont quatre pattes, ils sont des pieds à la tête des cochons. Elle est très contente, elle les prend et elle les met dans une réserve à cochons où elle leur envoie des glands. Ils sont devenus des cochons. Alors les autres Grecs qui les attendent s'étonnent de ne pas les voir revenir. Et Ulysse dit, écoutez, moi je vais aller voir un peu ce qui se passe. Ses compagnons lui disent, mais non, il va t'arriver malheur, ne bouge pas. Mais Ulysse se souvient qu'il est quand même un homme héroïque. Il prend son glaive, il prend son arc, il prend sa javeline, et il grimpe dans le maquis pour aller voir. Et il rencontre, parce que il est un homme protégé des dieux, il rencontre un dieu qui s'appelle Hermès, qui est un dieu très malin comme lui, un dieu à la Métis, qui lui dit « Hé, Ulysse, te presse pas, je te préviens, tes compagnons sont transformés en cochons, si tu vas là-bas, tu vas en devenir un toi-même. Qu'est-ce que je peux faire ? Attends. » Et il lui donne une herbe magique qui est un contrepoison. Et il lui dit « Écoute, tu avales ça maintenant. » Et quand tu vas arriver, elle va te faire le même coup, elle va te faire asseoir, elle va te proposer une boisson, et elle va attendre que tu sois transformé en cochon. Mais ça n'aura pas lieu. Là, tu prends ton glaive et tu lui dis, maintenant, à nous deux, on va voir. Et c'est ce qui se passe. Ulysse arrive dans la maison, il frappe, Circé lui ouvre, elle le voit, il est superbe. T'as un homme, il n'a plus 25 ans, il a déjà plus de 10 ans, 35 ans déjà maintenant. Alors, elle le fait entrer, elle le fait asseoir sur un fauteuil, une espèce de trône avec des clous d'or, et elle lui apporte sa boisson, et puis elle est là, elle attend. Et puis rien, il est là, il a avalé, et il la regarde Alors, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il sort son épée et elle lui dit, ah, je sais, je savais, tu es Ulysse, oui, je savais qu'avec toi, ça n'irait pas. Et elle lui dit, viens, nous allons dormir ensemble, tu vas être mon époux ou mon amant. Mais Ulysse se méfie parce qu'il se dit, ah, pff, dormir avec une magicienne de ce genre, va savoir qu'est-ce qui va m'arriver, hein. Alors il lui dit, écoute, je veux bien, oui, je veux bien dormir avec toi, mais à deux conditions. D'abord, tu vas me jurer ce que les Grecs appellent le grand serment des dieux, qui lie les dieux. Quand ils ont fait ce serment, il n'y a rien à faire, ils ne peuvent pas se dédire. Que tu ne me feras rien de mal. Non, je te promets, je ne te ferai rien de mal. Et d'autre part, tu vas redonner forme humaine à mes compagnons. Alors, elle appelle les cochons, ils sont là, ils ont tout oublié. Bien entendu, eux aussi, ils sont plus des êtres humains. Et hop, un coup de sa baguette magique, et ils redeviennent. Et même, on dit que à la suite de ce stage dans l'état de cochon, ils sont plus jeunes, plus beaux et meilleurs qu'avant. Voilà, si vous voulez la recette, vous pouvez essayer. Et alors, ils vont rester là, Ulysse et ses compagnons, pendant très longtemps, une année complète. Et au bout d'un an, le désir du retour va les prendre, Circé va leur expliquer comment faire, et il faut qu'ils aillent, il est jeté aux frontières du monde humain, il faut qu'il aille là où s'ouvre la bouche d'Hadès, la bouche d'enfer, les enfers, le monde souterrain, où sont tous les morts. Il doit faire là une série de rituels, et il doit voir monter du fond de la terre, au-delà même du monde organisé, pour les Grecs, le monde où nous sommes est ceinturé par un grand fleuve qui en marque les limites et qu'on appelle océan, Okeanos, le fleuve océan, qui tourne, ses eaux font tout le tour, et quand on dépasse le fleuve océan, on est hors du monde. Et c'est là que s'ouvrent les bouches d'Hadès, dans un pays, celui des Cimériens, où la nuit est continuelle, jamais le moindre rayon de soleil en aucune saison. C'est un pays de ténèbres et de noirceur et d'oubli. Et alors tous les morts montent, il voit ces morts, il est effrayé, c'est une masse indistincte, sans visage. Il voit ce que c'est que le sort de chacun de nous, une fois qu'on est mort. Il parle avec ces morts, avec certains. Et Tirésias, qui est un devin, qui est le seul à avoir gardé, même chez les morts, une certaine pensée, parce que quand il était vivant, il avait déjà donc double vue, pour ça qu'il était devin. Alors chez les morts, il garde en quelque sorte un œil dans le monde de la lumière. Et il lui annonce ce qui va arriver. Et il lui dit, surtout, tu dois faire attention à une chose. Tu vas dans ton chemin, tu vas trouver Charybde et Scylla, tu vas t'en sortir si tu fais ce que je te dis, tu vas arriver dans ce qu'on appelle l'île du soleil. Dans l'île du soleil, le soleil met des troupeaux sacrés de vaches qui lui appartiennent. Alors, pas d'histoire, il ne faut pas y toucher. Si tu y touches, les pires malheurs vont s'abattre sur toi. Et bon, ils arrivent à cette île, Triclaria, l'île du soleil, et ils n'ont rien à bouffer depuis je ne sais pas combien de temps. Comme dit le poète, la faim tord leur ventre. La faim aussi, une espèce de puissance néfaste qui est liée au sommeil, à la mort, à la nuit, à l'oubli, à la terreur. Alors ils sont là, ils ont faim, ils ne peuvent pas repartir. Ils croyaient faire juste une escale d'une nuit, parce que dans la navigation grecque, normalement, le soir, on ne navigue pas, on amène le bateau à terre, on couche à terre et on repart le lendemain, parce qu'on n'y voit rien sinon. Ils pensent partir le lendemain, et puis une tempête se lève pendant 15 jours, le vent souffle, ils ne peuvent pas partir. Et alors, ils meurent de faim. Ils pêchent un peu, ils essayent, ils ont épuisé toutes leurs réserves, et de nouveau, Ulysse commet une erreur. Il dit, je vais aller implorer les dieux, il monte en haut de l'île, et là, il s'endort. De nouveau, il se laisse aller au sommeil, à la nuit, à l'obscurité, à l'oubli. Et alors, pendant qu'il est là, pendant qu'il est endormi, ses compagnons disent, mais on ne va pas se laisser crever de faim avec ces belles vaches qui sont là. Alors, ils décident, ils cernent ce troupeau, ils prennent les plus belles, ils les abattent, et ils les mettent à cuire, à rôtir, à bouillir, etc. Pouah. Ulysse se réveille, mais à peine s'est-il réveillé, il sent, il voit cette fumée, il sent cette odeur de graisse cuite, et il comprend. Il redescend comme un fou, et leur dit, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis, écoute, ils ont déjà, ils sont gavés, ils sont en train de manger, tant qu'ils peuvent, de boire, ils festoient, ils s'amusent, ils rigolent, et leur dit, mais vous êtes fous, vous êtes fous. Ils mangent comme ça pendant 3 jours, le quatrième. Le vent tombe, et ils repartent. Et bien entendu, à peine le soleil qui a vu ça, a décidé, il s'adresse à Poséidon et à Zeus, et il leur dit, châtie-les. Le bateau part, il n'y a plus qu'un seul bateau, ils sont une trentaine d'hommes sur ce bateau, avec Ulysse. Une tempête éclate, la foudre s'abat, le bateau est cassé, tous les marins sont noyés, et Ulysse, qui a pu à un moment donné s'accrocher à un morceau de bois où il y a un mât, et qui est là grippé, qui est le seul à ne pas mourir, voit ses compagnons qui sont comme des espèces de corneilles qui flottent sur l'eau. Ils sont tous morts, et Ulysse a touché dans ce pays de nulle part le fond de ce que peut supporter un être humain, la solitude complète. Il n'est plus personne. Il n'y a plus d'Ulysse. Il est en quelque sorte anéanti. Alors, il nage pendant... Il est complètement épuisé et finalement, il va arriver dans une île où, qui est une île de nulle part, loin des dieux, loin des hommes, et où il y a juste une déesse avec, pour la servir, 4 nymphes, c'est-à-dire 4 divinités des bois qui servent de servante. Elle s'appelle Calypso. Calypso comme le navire dont vous avez entendu parler, qui fait des explorations sous-marines. Calypso. Calypso, ça veut dire quoi en grec? Ça veut dire celle qui est cachée et celle qui cache. Et il va rester là, alors, 5 ou 6 ans. Calypso, qui est toute seule, veut faire d'Ulysse son mari. Il a tout connu, il est seul, tous ses marins sont morts, plus personne n'est en liaison avec lui. Il est devenu quelque chose, il est devenu, il est personne. Et elle est là, et elle n'a qu'une idée, c'est que cette espèce de duo d'amour quasi-conjugal qui les unit l'un à l'autre continue indéfiniment. Et elle, mais lui, au bout d'un certain temps, les hommes, il en a marre. Mais ce n'est pas tant les hommes que Ulysse. Parce qu'il est là, mais il est coupé de tout ce qui faisait son identité. Son île, Ithaque, ses serviteurs, ses amis, son fils, son père, sa femme, Pénélope. Pénélope, qui l'attend, et qui elle aussi a beaucoup de difficultés et de malheurs, parce qu'en l'absence du mari, tout le monde le croit mort, pire que mort, comme dit son fils. Il n'est pas seulement mort. Il a disparu, il n'existe plus. On n'entend plus parler de lui, on ne peut plus le voir. Il a disparu comme si le monde s'était ouvert à un moment donné, qu'il avait été happé par l'obscurité. Alors il est là et il regrette. Il voudrait redevenir Ulysse. Calypso le sent et à ce moment-là, elle lui offre quoi ? Elle lui offre de devenir un dieu. De lui offrir, de le faire, de le rendre immortel et toujours jeune. Il ne connaîtra ni la mort, ni la vieillesse. Ni la mort, ni la vieillesse, s'il reste avec elle, dans ce duo d'amour solitaire, isolé, comment dirais-je, dans les toutes sortes de, dans les crevasses de du monde, en dehors de tout. Et lui ne va pas l'accepter. On nous dit qu'il n'a plus envie de dormir avec elle, qu'il pleure toutes les larmes de son corps, il se dessèche, il désire non plus s'unir à elle, il désire de mourir. Pourquoi? Parce que ce qu'il veut, ce qu'il préfère malgré tout, et ce que finalement il aura, c'est être fidèle à lui-même, être cet Ulysse humain qui connaît le danger, la vieillesse, mais qui est lié aux autres par mille liens, qui a une identité, et que les poètes vont chanter comme le héros de patience, d'endurance, de fidélité, comme le héros de la mémoire et de la fidélité à soi. Et il dit donc à Calypso, non. L'immortalité, qu'est-ce que ça ferait ? Ça voudrait dire que Ulysse aurait une immortalité, mais anonyme, personne ne le saurait, ni son fils, ni sa femme, ni personne, ni aucun homme, et je ne serais pas là en train de parler de lui. Il n'y aurait plus d'Ulysse, il n'y aurait plus d'Odyssée, le chant qui raconte Ulysse. Il aurait, tous les jours, serait semblable aux autres. Dans le temps éternel des dieux, rien ne se passe. Tout est toujours pareil. Rien n'a d'intérêt. C'est parce que nous sommes mortels, d'une certaine façon. C'est parce que chaque jour, quand elle apporte une joie, cette joie est d'autant plus vive qu'elle va disparaître. Si la beauté des fleurs, c'est justement que on les voit quand elles sont fleuries, et puis elles vont se faner. Si tous les jours, les roses étaient semblables à elles-mêmes, on ne les regarderait même plus. Si tous les jours, les femmes et les hommes et les jeunes gens étaient indéfiniment semblables à eux-mêmes, disaient la même chose, vivaient les mêmes choses, ce serait l'éternité de l'ennui et de l'immobilité. Et ce qu'il veut, Ulysse, c'est être lui-même, c'est être un homme, un individu. Il préfère, par conséquent, la mort, la mortalité, mais revenir à Ithaque. Il va revenir à Ithaque, et à Ithaque, il va revenir, et ses malheurs ne sont pas finis. Il arrive la belle Pénélope. La belle Pénélope est courtisée depuis 4 ans par une centaine de jeunes garçons qui voudraient la place d'Ulysse. Il va falloir qu'il les tue, et il va falloir qu'il les tue par la ruse, et il ne redeviendra Ulysse que quand son fils on l'aura reconnu comme tel, que quand son père aura reconnu en Ulysse son fils, ses serviteurs auront vu en Ulysse leur maître, et surtout quand Pénélope, devant ce vieil homme qu'il est devenu maintenant, parce qu'il a vieilli, 20 ans se sont écoulés entre le départ d'Ulysse pour la guerre de Troie et son retour à Ithaque. Il n'a plus les mêmes mains, c'est des mains de vieux bonhomme. Et elle, Pénélope, elle veut être sûre que ce vieux mendiant qui vient et qui prétend être Ulysse est bien, comme elle dit, l'Ulysse de sa jeunesse. Je passe sur tous les détails qui feront que finalement le jeu, cette espèce de jeu d'échecs d'Ithaque où chaque pièce a sa place et où pour qu'Ulysse redevienne Ulysse, il faut que toutes les pièces soient en rapport avec lui comme elles l'étaient auparavant. De toute façon, après 20 ans, Ulysse et Pénélope vont se retrouver. Il va y avoir, pour des raisons qui sont des raisons sur lesquelles je n'insiste pas, une noce de nouveau. Ulysse et Pénélope vont se remarier. Ils auront une nuit conjugale dans le lit conjugal qu'Ulysse, il y a plus de 20 ans, a construit. Et on peut dire que d'une certaine façon, par son retour d'Ulysse après, comme on se réveille après un cauchemar, mais il a fait l'expérience de ce qu'était le monde de la nuit, le monde des monstres, le monde de l'inhumain, le monde du refus de l'hospitalité, de la sauvagerie. Il revient, et au bout de 20 ans, d'une certaine façon, par la mémoire d'Ulysse, par sa fidélité, par la fidélité de Pénélope, et par le chant du poète, le temps est aboli, et ils se retrouvent comme ils étaient quand ils se sont mariés, lui à 20 ans, elle à 15, il y a si longtemps, de nouveau. Et Athéna, qui voit ça, allonge la nuit, empêche le soleil de se lever, pour que cette nuit où ils se retrouvent, l'Ulysse de la ruse, de l'intelligence et de la fidélité, eh bien ce soit la plus longue nuit conjugale qu'on puisse rêver.
C'était La Grèce par Jean-Pierre Vernant, une histoire d'Ulysse, deuxième partie.
enregistré à titre exceptionnel à l'occasion de la séance inaugurale des petites conférences Lumière pour enfants au Centre national dramatique de Montreuil le 12 mai 2001. Musique de Rodolphe Beauchaud. Prise de son, montage, mixage, Jean-Michel Bernot, Sandrine Ortuno, assistante, Dany Journeau, réalisation, Blandine Masson. Histoire d'écoute est réalisée avec le soutien du Centre national de documentation pédagogique.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 mai 2002. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Maître Mich, Maître Bkich, أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش ما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد كامل الناس يرقدوا جيب لي ربي باللي الوقت أحبس كمل الناس يطفي والضوء نسمع الليل يتنفس ما تخميش وما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد كلمة زلهم سهرانين من ناراني نسمع صوتهم في نهار اللي بنوا لي فرحانين في الليل يبكوا وحدهم ما تخميش ما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش ما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد مرة نخاف كي نسقسي روحي وعلاش رانا عايشين مرات تسقسيني روحي وقتاش كنا عايشين ما تخميش وما تبكيش أنا ما قالها لي حتى واحد ما تخميش وما تبكيش كنت حابة يقولها لي كش واحد.